Eh bien, c'est parfait, donc on va commencer. La première plaidoirie va concerner le roman de Mathieu Pollin, concerne Sale Gosse. Donc rapidement, parce qu'ils vont vous dire plein de choses. Moi, je vais juste resituer le contexte. On suit le personnage principal de ce livre, c'est Wilfried, un ado qui a été placé depuis l'âge de ses 8 mois en famille d'accueil. Au moment où commence le livre, il a une quinzaine d'années et il est un peu dans une passe difficile puisque son avenir professionnel est remis en cause. Il espérait devenir footballeur professionnel et ça ne fonctionne pas. Et là, c'est un moment qui cristallise sa colère, peut-être son désespoir vis-à-vis de son avenir. Mais il est entouré par des personnes qui accompagnent les jeunes et qui font partie de la PJJ, qui est donc la protection judiciaire de la jeunesse. Et c'est aussi le récit de cette rencontre et de cet accompagnement. Donc, pour la première plaidoirie, nous allons accueillir Maëlys. Où est Maëlys ?
Chers auditeurs, chères auditrices, j'ai aujourd'hui une question en tête. Pourquoi lit-on ? Sûrement parce que c'est distrayant et fait passer le temps de manière agréable. On peut penser à l'émerveillement éprouvé grâce aux livres fantastiques qui nous font découvrir des mondes entiers n'existant que dans notre imagination. Ils nous font rêver et envier, avec toute la magie qu'ils contiennent d'individus aux dons dépassant les nôtres, dotés de pouvoir, d'intelligence inégalée ou de beauté surnaturelle. Ils nous permettent de nous complaire dans une image glorifiée de ce que l'on est et nous font oublier, le temps de quelques pages, les défauts que nous portons en nous. Mais ainsi, ils nous font surtout oublier ce que nous sommes, des humains. D'autres ouvrages, au contraire des premiers, nous rappellent ce qui constitue notre humanité avec tous les défauts qu'elle contient. Sale Gosse de Mathieu Pollin en fait partie. Ce livre nous raconte l'histoire de Wilfried de ses 15 à 18 ans, tandis qu'il passe de famille d'accueil en foyer jusqu'à se retrouver en maison correctionnelle de correction. Au fil de l'histoire, il est aisé de désapprouver les décisions que Wilfried prend. On le sait poussé à agir ainsi par son désespoir, son sentiment d'abandon et sa résignation à devenir un délinquant. Et pourtant, on peut vouloir se détacher, éprouver de la peur ou du rejet en étant exposé à une réalité que l'on refuse de voir. Mais ce malaise qu'il nous fait ressentir est la preuve qu'il remet en question l'image idéal que nous avions de notre société, nous qui y sommes si bien intégrés. Il est impossible pour beaucoup d'entre nous d'imaginer ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'il ressent durant ces 3 années semées de douleurs et de désillusions. Mais ce que nous, lecteurs, ressentons, c'est de l'empathie. Ce même sentiment qui fait de nous tous des humains et non plus de simples individus. Ne dit-on pas que quelqu'un de cruel a perdu toute humanité ? C'est cette même capacité à éprouver une colère sourde face aux injustices subies par les autres, à se réjouir à leur côté, à sentir les larmes nous monter aux yeux en voyant les leurs couler sur leurs joues, qui nous pousse à nous battre pour une justice dont on ose encore rêver. C'est cette humanité qui m'a accompagnée au fil de ma lecture, tandis que je voyais la société dans ses défauts les plus laids. L'impuissance de ceux qui les subissent et la méfiance de ceux-ci envers un système qui n'a cessé de les trahir. Et c'est cette colère qui nous permet de nous améliorer et de tendre vers une société plus juste. Je vais conclure, chères auditrices, chers auditeurs, en disant que les livres sont des biens aussi bien matériels qu'intellectuels. Si on les lit pour les sentiments qu'ils retranscrivent, n'offririez-vous pas un peu d'humanité, avec toute la colère et l'espoir qu'elle contient, à votre prochain. Pourquoi ne donneriez-vous pas, grâce à une simple lecture, un sentiment d'humanité à votre prochain qu'il ne pensait pas avoir jusqu'à présent ? Après avoir refermé ce livre, on comprend enfin que c'est l'espoir d'une fin heureuse qui fait avancer Wilfried et ses compagnons d'infortune à travers la vie, de la même façon qu'il nous fait avidement parcourir les lignes imprimées. Comme le dit Paul Valéry, il faut tenter de vivre. Mais, comme le dit Mathieu Palin, il y aura des mains tendues. Soyons assez modestes pour les saisir.
Discours, c'est pas si facile de reprendre la parole, mais on va le faire, hein, Mathieu. Donc la première chose que j'ai envie de vous demander, c'est votre réaction. Comment vous pouvez répondre au brillant éloge de Maëlys ?
Je suis très impressionné.
Merci.
Et je suis très heureux aussi parce que j'ai entendu les mots répétés d'empathie et d'humanité. Et j'ai pas écrit ce livre en me disant il faut absolument convaincre le lecteur de quelque chose, mais ce sujet-là d'un enfant qui sombre dans la délinquance et qui essaye de s'en sortir, c'est vrai que c'est un sujet qui moi m'a beaucoup occupé l'esprit depuis 10 ans maintenant que je suis journaliste, parce que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure à la rencontre précédente, mais c'est des sujets qui sont souvent utilisés de manière politique, que ce soit pour des élections présidentielles ou même pour le quotidien. Aujourd'hui encore, on entend beaucoup parler d'ensauvagement, et quand j'entends que ce soit le ministre de l'Intérieur ou d'autres employer ce mot, je sais que c'est pour parler de gamins comme Wilfried, et ça me fait mal de l'entendre, donc d'entendre parler d'empathie et d'humanité, ça me fait plaisir, parce que ça fait partie des émotions que j'aimerais susciter chez le lecteur avec cette histoire-là. Donc rien que pour ça, merci. Et puis avoir mon nom à côté de celui de Paul Valéry, c'était pas prévu non plus. Donc merci pour ça aussi.
Avec plaisir.
Maëlys, c'est l'occasion d'éventuellement poser une question à Mathieu, là, tant qu'il est là. Sinon, ça pourrait être tout à l'heure, si, comme tu préfères.
J'en ai une que je me pose depuis quelque temps. Je me suis toujours demandé quel était le processus, en quelque sorte, d'écriture des livres comme ceci, qui se base sur sur la réalité, puisque vous avez mené une enquête, comme le journaliste que vous êtes, mais à la fois qui fait partie de la fiction, en quelque sorte. Je me demandais comment vous arrivez à mêler du vrai et de l'imagination entre les deux.
En fait, je peux parler que du coup de mon expérience, qui est une expérience de journaliste, qui a un peu dévié de sa trajectoire pour écrire un roman. Et au début, je me défendais justement d'avoir écrit de la fiction en disant « Non, mais c'est quand même pas vraiment de la fiction. » Je dirais qu'il y a 80% de réel ou 20% de fixe. Bon, j'en sais rien au final. Mais c'est un peu... c'est de l'artisanat, parce que finalement, je me suis rendu compte que je ne le faisais pas vraiment exprès. Au bout d'un moment, je me suis dit, OK, bon, ce que tu vas écrire, ce n'est plus du journalisme. Il y aura marqué roman sur le livre. Donc, tu peux t'autoriser à faire ce qui est complètement interdit dans le journalisme, c'est-à-dire inventer des scènes. Et je pense qu'il n'y en a pas énormément qui sont inventés, mais pour ce côté fictionnel dans l'histoire, il vient aussi de scènes qu'on a déjà vécues, de moments. Enfin, j'ai 32 ans, mais j'ai l'impression que mes 15 ans ne sont pas si lointains, et il y a des scènes dans le livre dont je n'ai pas été témoin physiquement. Wilfried qui tombe amoureux, je ne l'ai pas vu, mais pour avoir été, moi, dans cette situation-là, d'un garçon de 15 ans qui tombe amoureux, j'en ai des souvenirs encore assez frais. Et du coup, j'ai eu l'impression que ce n'était pas si compliqué que ça, d'écrire ces scènes qui sont complètement des scènes de fiction, des scènes de romance, mais qui sont tirées de souvenirs, de scènes vécues. Donc, j'ai essayé de mêler ça, à la fois l'observation de terrain, qui c'est du reportage de journalistes pur et dur, qui prend des notes et qui les reprend après, et des petits pas de côté dans la fiction qui sont nourris d'expériences personnelles, d'expériences vues aussi chez des amis. Donc c'est un peu un patchwork de tout ça, quoi.
D'accord, merci.
Merci.
Merci Maïlys. Ça va pour toi?
Oui.
Écoute, bon, je te laisse passer le relais à la prochaine élève qui va arriver. Et puis, ben, je te libère, mais par contre, tu es invitée à revenir t'asseoir avec nous après.
Merci.
Le temps d'accueillir notre deuxième lycéenne, puisque c'est une fille encore. Je vais en profiter pour poser une question. Maïlys, là, elle vient de nous parler du poids du réel, elle nous a parlé d'empathie, elle nous a parlé de colère, elle nous a parlé d'espoir. Et moi, immédiatement, ce qui m'est venu en l'entendant, c'est le lien avec le titre du livre. J'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus, puisque finalement, sale gosse, c'est pas quelque chose... à la base, ça peut être dit dans un moment de colère, mais en même temps, dans Sale gosse, il y a le mot gosse. Et voilà, je voudrais que tu nous en dises un peu plus.
Bah, Sale gosse, c'est étrange parce que j'ai eu le titre finalement même avant d'avoir fini d'écrire le livre. Ce qui m'arrive jamais en tant que journaliste, en général, je mets un titre à mes articles, et puis le premier truc que fait le secrétaire de rédaction en le recevant, c'est que il enlève le titre, il dit bon, ça c'est pourri, on le fera jamais, donc maintenant on va enfin trouver un titre à cet article. Et du coup j'avais marqué Sale gosse en me disant ça allait changer, que finalement la maison d'édition allait dire bon, on va trouver un titre à ce livre. Et finalement c'est resté, et je l'avais mis parce que Sale gosse, c'est à la fois ce que vous dites à un gamin comme Wilfried qui enchaîne les conneries, que vous avez envie de secouer en disant bon, tu vas prendre la bonne décision enfin. Et c'est en même temps ce que vous dites à votre fils qui range pas sa chambre, quoi. Et il y a ce côté très affectueux aussi dans cette expression que j'avais envie de laisser, parce que Wilfried, il a 15 ans, après il en a 16, 17, 18, on lâche à 19 ans, mais ça reste un enfant. Avec toutes les excuses qu'on peut offrir aux enfants, et avec toute cette partie d'apprentissage qu'est l'adolescence, apprentissage de la vie adulte et de la vie tout court. Et ça, c'est quelque chose qui était important pour moi, que ce ne soit pas un livre qui regarde cet enfant de haut, ou qui a un certain aplomb pour regarder ce que c'est que la délinquance ou l'adolescence, mais que ce soit justement avec cette notion d'empathie qui fait qu'on comprend qu'il enchaîne les conneries, mais c'est pas si grave que ça tant qu'on est encore un enfant, quoi.
Très bien, je ne sais pas si Léane est prête.
Jeunesse de France, tu es mal aimée. Marianne t'a trop souvent abandonnée. Pourtant, il y a dans ses écrits les murmures de la déesse Elpis qui frémissent au gré des pages. Et moi, je suis juste là, devant vous, pour les faire entendre. Sale gosse de Mathieu Palin, ce sont ces portraits croisés d'enfance brisée. C'est ce Wilfried qui vit sans papa et sans maman, mais chez des gens qui l'aiment parce qu'ils doivent l'aimer. C'est celui qui grandit, balle aux pieds, mais qui bousille sa vie car la colère l'a étouffé. C'est sans identité qui se retrouve étiqueté délinquant après avoir frappé. Finalement, ce Wilfried, c'est un de ces jeunes errants dans l'Hexagone qui sombrent dans la délinquance pour oublier leur enfance. J'ai commencé ce livre en pensant qu'enfance rimait avec chance. Quelle naïveté! Je l'ai fini, et je sais maintenant qu'enfance rime avec espérance. Car oui, mesdames et messieurs, pas un seul moment la délinquance ne devient une fatalité. Pas une seule seconde, Mathieu Palin ne frôle le défaitisme. C'est cela toute la force du livre. C'est à travers des parcours chaotiques qu'il transmet un message si inspirant, qui tient en un mot. Espoir. Espoir, parce que ce livre, quand vous lisez ce livre, vous ouvrez les yeux quand tous les autres les ferment. Vous comprenez quand l'autre s'est perdu. Vous croirez à celui qui ne croit plus. Vous croyez à la vie et surtout vous croyez à la jeunesse de France. Espoir, parce que ce livre, avant tout, il nous rappelle que la vie, c'est des rencontres. Qu'il y aura toujours sur ton chemin ou sur le tien des gens qui te tendront la main. À l'image de ces héros anonymes, qui sont ceux qui aident et qui ne renoncent jamais. Ceux qui nous font apprécier l'humanité. Enfin, espoir. Car il y a dans ce livre que vous empresserez de lire et de faire lire, je n'en doute pas, une enquête précise menée par Mathieu Palin, qui écrit avec un tel réalisme, une telle justesse, qu'il nous prouve encore que les mots sont une incroyable force. Vous serez touchés par ces paroles de délinquants, mais si réconfortantes, parce qu'elles sont la preuve d'une jeunesse de France courageuse, tenace et bien vivante. Et pour ceux qui oseront attaquer ce langage cru, banal, violent, je leur répondrai, c'est la manifestation d'une réalité, celle d'absence d'amour d'une société qui ne sait plus aimer un orphelin. Finalement, Sale gosse, c'est plus qu'un récit. C'est un hommage à tous ces Wilfried qui sont tous nés quelque part, sauf là où ils auraient dû naître. C'est à la gloire de ces éducateurs, qui sont tous sauf des spectateurs du désespoir. C'est un témoignage de la jeunesse de France, tant décriée, mais à qui, une fois le livre fini, vous mourrez envie de lui dire « Je t'aime ».
Mathieu, voilà, maintenant c'est une déclaration d'amour. Après, c'est une bonne matinée, non ?
J'ai trouvé des avocates. Si jamais je suis dans la merde dans les prochaines années, je sais que je vais prendre des numéros après, je ne sais jamais. Non, merci beaucoup. Hein. C'est très, je m'y attendais pas du tout. Je savais pas. J'avais vu sur le programme plaidoirie littéraire, mais j'avoue que je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. C'est très étrange et en même temps très émouvant de voir que on est tout seul devant son ordinateur à écrire quelque chose et puis à la fin ça devient vivant vraiment et là c'en est la preuve. Donc merci beaucoup.
Plaidoirie qu'il faudrait qu'on vous enregistre, qu'on vous envoie pour les petits coups de blues ou ouais, de moments d'inquiétude ou d'angoisse de page blanche. Léane, pareil, est-ce que c'est l'occasion éventuellement de poser une question, si tu en as une? C'est pas obligatoire, mais voilà.
Bah déjà, j'ai beaucoup apprécié le livre. J'espère que ça s'est vu quand même. Je me demandais à quel moment dans votre enquête vous avez eu le déclic pour vous dire que d'en faire un livre justement et pas en faire seulement un reportage. Est-ce que justement le fait que vous avez vécu, vous avez eu des échos durant votre enfance, est-ce que ça vous a poussé à écrire ce livre ?
Ouais, en fait, je savais que ça allait être un reportage, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, je pensais que ce serait un reportage qui serait différent des autres, parce que j'y avais de l'affect. Je savais que je le faisais pour une raison qui m'était personnelle. On essaie tout le temps, en tant que journaliste, de se cacher un peu la vérité. On dit qu'on s'intéresse à des sujets parce qu'ils sont dans l'actualité et tout. On ne se pose jamais vraiment la question de savoir pourquoi on le fait. Et là, je savais, parce que j'avais repoussé le départ, l'action d'aller sur le terrain, je l'avais repoussé quand même pendant plusieurs années. Et j'y allais, j'y suis allé début 2017 pour une bonne raison, c'est que j'avais un ami très proche qui malheureusement est décédé. C'est un, je le raconte à la fin du livre, toute la fin du livre, qui s'appelle Salem, qui lui était un ami de mon père, qui était devenu un ami aussi, parce qu'on allait tout le temps chez lui. Il était éducateur à la PJJ. Et lui, mon père avait cessé de l'être éducateur parce que ça devenait émotionnellement, je pense, trop dur pour lui. En plus, avec des enfants en bas âge, j'avais deux petites sœurs qui étaient petites à l'époque. Quand il a quitté la PJJ, je pense qu'il y a eu une espèce de collusion entre les gamins dont il avait à s'occuper toute la journée et les gamins qu'il avait à la maison. Et donc lui, il a quitté la PJJ, mais Salem, lui, est resté. Et il a gravi un peu les échelons, il était devenu... directeur de la PJJ de l'Essonne, et malheureusement il est décédé en 2016, donc classiquement il y a eu un enterrement, et c'était au cimetière de Corbeil-Essonne, et quand on est arrivé avec mon père, ma mère et mes sœurs, le cimetière est fait de telle manière que c'est un peu comme un amphithéâtre, on arrive et on voit la dernière tombe parce qu'il est tout en pente comme ça, et en arrivant, le cimetière était noir de monde, et j'ai dit, mais c'est pas possible, il doit y avoir 5 enterrements au même moment, il peut pas connaître autant de gens. Et en fait, en arrivant, mon père a reconnu très rapidement des visages, et il m'a dit, en fait, je reconnais des gamins qui sont plus des gamins, qui ont 40 ans maintenant, qui sont venus avec leur femme, avec leur mari, avec leurs enfants, qui sont venus dire au revoir à cet homme qui était éducateur, qui pour certains étaient passés de manière extrêmement brève dans leur vie, mais voilà, 10, 15, 20 ans après, ils revenaient dire au revoir à quelqu'un qui avait compté pour eux. Et je savais, même si mon père est quelqu'un qui ne parle pas et qui ne parle pas de lui, je savais qu'il avait un peu la même relation avec, dans le non-dit, mais avec des gamins qui étaient passés parfois en coup de vent dans sa vie et qui avaient laissé des choses fortes. Et ça, ce lien-là, qui était un peu un lien magique entre un éducateur et un gamin qui ne va pas bien, je me suis dit, je vais le raconter. Et donc ça, c'était le point de départ mais du journaliste, en me disant, je vais aller sur le terrain, je vais intégrer une équipe, et puis au bout d'un mois, j'aurai suffisamment de vécu, d'histoire pour écrire un article. Et je me suis laissé prendre un peu à mon propre piège, parce que en arrivant sur place, j'ai intégré une équipe. J'ai commencé à voir des gamins, j'ai suivi le travail des psychologues, j'ai suivi le travail des avocats aussi qui bossent au tribunal pour enfants, qui accompagnent ces enfants, qui accompagnent les parents aussi. Et puis au bout d'un mois, j'avais cette barrière de l'autorisation qui arrivait à son terme, et je me suis dit, c'est dommage d'arrêter là, parce que t'as rencontré les enfants, mais t'en as rencontré plein une fois, et on sait bien que on se livre pas vraiment quand on rencontre les gens qu'une fois, il faut une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, a fortiori quand on est un enfant comme ça qui est un peu dans un certain mal-être. Donc il y a un étranger qui arrive, on lui donne le strict minimum, voire même rien du tout, et puis la fois d'après on se livre un peu plus. Donc je me suis dit, je vais rester, et je suis resté 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, et puis au bout de 6 mois, finalement, je me suis rendu compte que j'avais plus du tout envie d'écrire d'articles, et que ça allait être quelque chose de légèrement différent, quoi. Et c'est comme ça, et aussi pour dire la vérité, parce que l'éditrice de l'Iconoclaste à ce moment-là est arrivée, m'a mis un peu le grappin dessus en me disant, pourquoi t'écrirais pas un roman, et c'est comme ça que finalement l'idée a germé, quoi. Mais c'est venu petit à petit, je me suis pas dit dès le départ, parce que mon père a été éducateur, je vais écrire un livre sur les éducateurs de la PJJ, parce que bon, mon père, quand il était éducateur, il ne nous disait pas ce qu'il faisait. Juste, j'allais à l'école, on me disait, il fait quoi ton père? Je dis, il bosse à la PJJ. Mais je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait bien vouloir dire, PJJ. Et puis finalement, voilà, à 30 ans, j'ai fait la démarche d'aller voir, et c'est comme ça qu'est né le livre. Mais je n'avais pas l'idée de base, quoi. Ça arrive après.
D'accord, merci.
On te remercie. Le temps que notre troisième lycéen, parce que cette fois-ci ça va être un garçon, se prépare, arrive, et je vais poser une dernière question pour l'instant à Mathieu. Ah oui, je précise pour tout le monde que on a prévu un petit temps derrière pour que vous aussi vous ayez la parole et vous puissiez poser les questions que vous avez envie de poser. Juste le temps de faire la transition, Mathieu, c'est une question un peu basique, mais finalement, moi j'en profite, là, je la pose. Il y a un prochain projet en route ?
Oui. Oui, j'essaye d'écrire le deuxième.
Et on peut, c'est une courte réponse.
C'est une très courte réponse. C'est pas la suite du premier, c'est pas non plus exactement. C'est pas sur, vraiment sur le même sujet, et c'est peut-être même pas forcément un roman en fait. J'avais cette liberté là que je m'étais autorisé pour le premier livre de pouvoir tricher un peu avec l'observation du terrain et de faire des petits raccourcis, peut-être parfois créer un personnage avec deux personnages réels que je croisais sur le terrain. Et là, j'aimerais raconter les aventures extraordinaires d'un ami à moi, d'un quelqu'un que je connais qui a le même âge que moi, qui a grandi à peu près au même endroit, mais qui a une histoire extrêmement riche et suffisamment riche, à mon sens, pour que je n'ai pas forcément à utiliser la fiction. Je ne me l'interdis pas, je me dis que peut-être dans 3 mois, je reviendrai sur ce que j'ai dit, et puis je verrai que finalement, c'est trop de contraintes, trop de problèmes, donc je ne suis pas encore sûr à 100% que le prochain ne sera pas un roman, mais on verra. Mais je travaille dessus.
Bon, vous savez qu'on est des fidèles au Festival du Premier Roman et qu'on continue à lire les auteurs qui sont déjà venus.
C'est gentil.
Donc on guettera. On va s'occuper un petit peu de votre livre, Anne Poli. Avec grand plaisir, on vous accueille. On change un peu de domaine. Votre récit commence au moment où la narratrice perd son père, qui meurt à l'hôpital de Poissy la veille de Toussaint. Et on suit finalement tout l'accomplissement des procédures d'usage fait par les enfants, la préparation des obsèques, les rendez-vous aux pompes funèbres, l'enterrement.
Les protocoles, quoi.
Tout le protocole. Et puis, comme on le vit peut-être tous, à un moment donné, il faut vider la maison, ranger les affaires, trier les tiroirs. Et là, on fait des découvertes. Donc, j'en dirai pas plus tout de suite. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lilian, si toutefois il est prêt. Mais il est prêt, c'est super.
Certains meurent dans la douche et d'autres en sauvant des vies. Mais comme le dit Victor Hugo, la vie est une chanson dont la mort est le refrain. En effet, la mort est une chose à laquelle on ne peut échapper. Et c'est ce que nous rappelle Anne Poli dans son roman « Avant que j'oublie ». Vis ta vie avant que ta vie ne soit prise. La mort, c'est une chose dont beaucoup de personnes se méfient. Et moi aussi, je m'en méfiais avant de lire ce livre. En effet, il nous donne une merveilleuse vision de la mort. Pensez-vous que vos parents ou grands-parents aimeraient vous voir seuls, dans le noir, à pleurer après leur décès ? Je ne pense pas. Il faut sourire à la mort. Souriez, car toute votre vie, elle vous suivra. Donc, à quoi bon se tourmenter ? Pensez-vous aussi, par exemple, que Jean-Pierre aurait aimé voir sa fille ou son fils pleurer et vivre dans le passé après sa mort ? Non. Et c'est pour cela qu'Anne et Jean-François ont avancé. Bien sûr, ça n'a pas été facile et Céline Dion n'a pas aidé. Mais qu'est-ce qui est réellement facile dans la vie ? Eh bien, rien. Il faut vaincre ses peurs. C'est ce que vous, parents, nous disiez lorsque nous avions peur de ce monstre dans le placard. Alors, pourquoi ne pas vaincre celle-ci ? Et puis, vous n'êtes pas seul. Vous avez votre famille, vos amis, mais aussi cette Juliette qui nous vient de nulle part avec sa petite lettre et le prêtre de Carrière sous Poissy. Et vous aimez leur soutien, pas vrai ? Oui, la vie est éphémère. Un jour on vit, l'autre on meurt. Mais les sentiments, eux, ils resteront à jamais. Nos défunts, ils sont là. Alors, faisons la fête, amusons-nous, dansons, chantons, avec un perroquet dans les cheveux si vous le souhaitez, parce qu'au fond, personne n'est mort. Certes, des corps sont montés au ciel, mais qui vous dit que leurs âmes ne sont pas derrière vous, à trinquer à votre santé et boire 2-3 coups comme vous le faites? Car l'amour perdurera tant que nous penserons à eux. De plus, Anne Pauly traite dans son roman d'un père alcoolique, sans intérêt, diront certains. Mais si vous avez lu Avant que j'oublie, vous sauriez que ce père a tout son intérêt dans ce roman. Il est au milieu de celui-ci. Car oui, Jean-Pierre avait ses défauts, fainéant, fatigant, alcoolique, mais ne voyez-vous pas ici que l'auteur veut nous montrer l'amour d'un père pour sa fille? Car Anne Pauly en a bavé, bien sûr, mais elle a aussi passé de merveilleux moments avec son père, comme les soirées télé, par exemple. Et puis, c'était ses vices qui faisaient de lui un bel homme, un homme à l'esprit paternel, un homme doux et tendre. Je tiens à finir, mesdames et messieurs, avec un sujet qui me tient à cœur. Pensez-vous que... Pardon. Si le fait qu'Anne Pauly traite de son homosexualité dans son livre en dérange certaines ou certains, alors que ces personnes, et écoutez-moi bien, ferment leur boîte à camembert et retournent dans leurs années 90. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous invite à vous asseoir ou vous allonger, en fait, peu importe, mais avec le livre de la grande Anne Pauly à la main, afin de découvrir au fil des pages l'amour d'un père pour sa fille, l'amour d'un frère pour sa sœur, mais aussi une ouverture d'esprit hors pair et la mort sous son plus bel angle, mais aussi plein de belles choses qui vous adouciront le cœur le temps d'un vaste moment. Merci.
Alors déjà bravo, parce que c'est vraiment très maîtrisé, très émouvant, et je trouve que c'est aussi à l'image de ce roman justement, qui est à la fois drôle et émouvant, et tu as su le rendre justement dans le ton de ta plaidoirie ce contraste. J'ai bien aimé aussi le... Alors Céline Dion, non, Céline Dion aide au contraire à passer le cap. J'ai bien aimé aussi la manière dont tu l'as traduit ou ressenti comme, comment dire ça, chantons, buvons, dansons, de toute manière, on est les gens, enfin, on continue à les aimer, on continue de s'aimer, même si la mort a tout emporté. Là, je fais du Stéphanie de Monaco, oui, l'amour a tout emporté. Voilà. C'est un atavisme, je suis désolée. Et quoi d'autre encore? Non, l'aspect, l'amour filial, justement, les interrelations qui sont profondes. Et puis alors, c'est amusant parce que la mort sous son plus beau jour, on sait tous que ce n'est pas le cas, mais qu'en même temps, ça peut être des beaux moments et justement quelque chose de plus lumineux qu'on pense. Merci en tout cas, c'est très
bien. Merci à vous.
Lilian, c'est ta minute intervieweur. As-tu une question que tu souhaiterais poser?
Alors oui. Pourquoi Avant que j'oublie?
Eh bien, en réalité, le premier titre que j'avais trouvé, c'était Les affaires du mort, ce qui est assez sinistre comme titre. Et mon éditrice trouvait ça également sinistre. Et elle le trouvait encore plus sinistre pour un premier roman. Elle me disait, ça n'a pas très bien marché, ça c'est sûr. Et comme on ne porte pas de verre au théâtre, on n'écrit pas mort sur une couverture de livre, sauf dans un polar, ou sauf s'il y a un mot pour le contrebalancer. Par exemple, l'amant des morts, ça marche, ou trompe la mort, ça marche. Mais les affaires du mort, voilà. Et donc, Avant que j'oublie, c'était mon deuxième titre, qui a donc plu à mes éditrices. Et Avant que j'oublie, c'est donc, ça résume quelque part la démarche de ce livre, qui est que le cerveau est plastique et s'adapte rapidement aux choses, et que quand il a mal, il s'empresse d'oublier. Il s'empresse d'oublier, et au début, on se souvient très très bien, tout est très net, très clair, et puis après, on se rappelle vaguement d'une balade en calèche un jour, mais on ne sait plus très bien quel jour c'était, on ne sait plus trop ce qui s'est dit, voilà. Et ayant perdu ma mère plus jeune, je m'étais rendu compte que d'elle, je ne savais rien du tout. Je ne me souvenais plus de rien. Et donc, cette fois-là, je me dis, ah ben non, là, il n'y a pas question d'oublier. D'autant qu'il y avait des choses à consigner en termes de rocambolesque, en termes d'aventure rocambolesque, mais aussi en termes de, pas de souffrance, mais d'événements. Voilà. Et il y avait des choses aussi à consigner en termes de contraste de personnalité. Et il y avait finalement, donc voilà, toutes ces choses, en fait, au départ, c'était consigner toutes ces choses avant de les oublier. Et puis, de fil en aiguille, les premiers souvenirs un peu... Alors, d'abord, les souvenirs de la... Avant que j'oublie aussi, tous les moments désagréables que la mort impose. C'est-à-dire, tout d'un coup, quelqu'un meurt dans un hôpital et on trouve sur une table de chevet des trucs. Et on se dit, waouh, c'est tout ce qui reste. 70 ans de vie, il reste ça. Voilà, ça, c'est très, très éprouvant et très absurde. Avant d'oublier aussi la manière dont le réel s'exprime dans ces cas-là de façon tout à fait ridicule. Notamment via les protocoles qu'on nous propose pour sortir de là, des protocoles très raides, les pompes funèbres, la cérémonie, des choses comme ça. Et évidemment, tout, c'est tellement raide que tout dérape en permanence et que ça devient vraiment comique souvent. Enfin, ça dérape très souvent. Et donc, ne pas oublier justement ces moments de contraste-là qui saisissent au moment du deuil, qui sont très incisifs pour le cœur en deuil. Voilà, c'était aussi avant d'oublier ça.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci,
Lilian. C'était très bien. Merci beaucoup.
Merci.